Bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Et nous sommes en compagnie, c'est une habitude, de Jacques Grasser. Bonjour.
Bonjour à tous.
Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et avec vous, nous faisons cette présentation à travers cette série pour parler actuellement de ces fortifications qui ont été aménagées tout autour de la ville d'Épinal, mais également à travers le département. Et comme on a pu l'exprimer récemment, beaucoup de travaux également sur tout le pourtour est du pays à l'époque, puisque la frontière se trouvait aux portes des Vosges. Nous avions décidé, lors de la dernière émission, de parler de ce que l'on appelle communément les collatéraux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord ce que l'on entend par collatéraux ?
En fait, le problème qui se pose, là, en parlant des collatéraux, c'est en fait un peu tout ce qui est peu visible. C'est-à-dire, là, on parle des forts, de la construction de la fortification, ça c'est très visible, la construction de casernes, etc., c'est très visible. Mais à côté de ça, il y a une quantité de bâtiments, on va dire, annexes, qui sont extrêmement importants pour la vie de la fortification, mais dont on fait assez peu mention parce que c'est pas très spectaculaire. Et puis, il y a tous les problèmes de transport, il y a tous les problèmes de communication, et puis surtout la variable que l'on observe entre 1876 et 1914, au niveau, par exemple, des armements, au niveau du ravitaillement en nourriture, en boissons, de la place, au niveau des effectifs de ces fortifications, enfin, ces forteresses. Voilà, c'est tout ça que j'appelle un petit peu les collatéraux. Ce sont des choses, particulièrement aujourd'hui, qui ne sont plus visibles du tout, puisque ça ne fonctionne plus. La seule chose qui reste visible un peu dans ce matériel, on va dire, annexe à la forteresse, c'est par exemple la voie ferrée, puisque, comme vous le savez, on a rétabli, avec l'association LARFUP, on a rétabli cette année une liaison ferroviaire entre deux ouvrages, Uxelier et l'ouvrage de Bois-l'Abbé, un travail de 10 ans de cette association absolument considérable et qui a très bien fonctionné, d'ailleurs, ces derniers mois. Donc voilà, c'est de cela dont je voulais parler maintenant, en commençant peut-être par le problème purement militaire, on va dire, c'est la fortification proprement dit. Entre 1876, date du premier coup de pioche pour construire les 4 premiers forts, La Mouche, Razimont, Longchamp et Deneuville, on va construire des ouvrages annexes qu'on appelle des batteries d'artillerie, généralement équipées de 4 pièces, avec des canons qui vont évidemment évoluer au cours de la période. On commence avec des pièces qui sont des pièces issues du Second Empire, avec quelquefois encore, au début, on met l'obus par la bouche à feu, et on va les équiper tout au début de culasses, donc de façon à charger le canon par l'arrière. Alors c'est pas trop technique pour nos auditeurs, mais enfin on voit bien que la différence que l'on a...
On visualise bien l'image de ne pas se retrouver devant le canon, dos à l'adversaire.
Voilà. Disons que les premiers obus, encore au Second Empire, on les chargeait par la bouche du canon, comme on chargeait les boulets. Alors que maintenant, on va charger par la culasse avec une charge de poudre. C'est complètement différent. Et d'ailleurs, c'est encore plus de ça, c'est beaucoup plus rapide. De la même façon, le fusil va évoluer entre 1870 et 1914. Un fusil beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis, avec une portée beaucoup plus grande. La généralisation de la mitrailleuse, par exemple. Et donc, tout ça, alors si je reviens au canon, par exemple, on va avoir dans les forts des canons de 12 culasses. Alors, c'est des canons de 12, donc, du Second Empire, que l'on a équipé d'une culasse. Ils équipent en particulier l'artillerie des fossés. Donc, ces batteries, je reviens aux batteries d'artillerie, batteries annexes au fort, donc, de chaque côté, pour renforcer, en fait, la position d'artillerie du fort. Et puis ensuite, on va progressivement disperser cette artillerie tout autour de la place avec des batteries intermédiaires. En tout, on va quand même en construire plus d'une centaine. Ce qui fait qu'à l'arrivée, contrairement à la doctrine de Céade Rivière, mais ça on en a déjà parlé, on va avoir une place quasiment fermée par le dispositif d'artillerie. Ça va être quasiment un front continu tout autour de la place, c'est-à-dire sur presque 50 kilomètres. C'est quand même considérable. Et donc avec les troupes qui vont avec, bien entendu. Et avec les arsenaux d'artillerie qui vont avec, parce qu'évidemment... On ne va pas laisser en temps de paix des pièces d'artillerie pourrir en plein air, en rase campagne. Elles sont rentrées dans les arsenaux et on va les sortir seulement au moment de la déclaration de guerre. Et si je continue là-dessus, on va avoir aussi sur l'armement d'autres problématiques avec l'amélioration des métaux. Hein, on va partir avec des métaux qui étaient, au début, c'était quasiment de la fonte, par exemple pour les tourelles, hein, ce qu'on appelle de la fonte dure, les tourelles Mougins, hein, avec des tourelles en acier. La veille de la Grande Guerre, les tourelles Galopin, c'est de l'acier, donc c'est beaucoup plus résistant, plus léger aussi, beaucoup plus souple d'emploi. Et puis, on va avoir, à côté de ces bâtiments proprement d'artillerie, on va avoir d'autres choses. On va avoir la construction, par exemple, de PC d'artillerie.
Donc, les PC, ce sont les postes de commandement. Hein.
Sur les 5 secteurs de la place, hein, c'est les secteurs géographiques, hein, tout bêtement. Secteur nord, est, etc. Bon, des PC d'artillerie pour commander l'artillerie de tel ou tel secteur, puisque généralement, on pense pas qu'on va être attaqué de tous les côtés en même temps. Hein. Et puis, on va construire évidemment des magasins à poudre. Alors, on appelle ça des magasins à poudre, hein, pas des poudreries hein, ou des poudrières. Ce sont des magasins à poudre qui sont parfois spécialisés. Par exemple, à Chantraine, quand on descend la route de Chantraine avant de monter la côte des Forges, à l'étang de Chantraine, vous avez bien visible encore, sur votre droite en descendant, un ancien magasin à poudre, qui est un magasin qui a été spécialisé, après 1890, en explosifs brisants, en mélinite. Il ne faut pas oublier que les obus sont confectionnés au dernier moment, pour éviter des explosions intempestives. Hein, donc tout est rangé séparément dans un magasin à poudre. Et c'est seulement quand on en a besoin que l'on va confectionner tout ça et transporter tout ça par le petit chemin de fer militaire. Mmh. Donc voilà, alors les magasins à poudre, on en a tout autour de la place, mais on en a en particulier dans la vallée de Lima, parce que la vallée de Lima, c'est pratiquement une vallée centrale dans le camp retranché d'Épinal, qui est relativement, du fait de sa profondeur et des forêts, dissimulé au vu de l'ennemi. Hein, n'oublions pas qu'à l'époque, il n'y a pas d'aviation de reconnaissance encore. Ça va venir, mais pas encore. Hein. Et donc, on a, en partant de Golbey, le long du ruisseau de Grand-Rue, ou le ruisseau de Lima, hein, c'est le même, il change de nom en changeant de commune, on a le magasin à poudre de Grand-Rue, à Golbey, hein, qui est parfaitement visible aujourd'hui, et qui d'ailleurs est utilisé, je crois, par les scouts de Golbey. On a le magasin à poudre, effectivement, de l'étang de Chantraine. On a un autre magasin à poudre en remontant toujours la vallée qui est occupée aujourd'hui par une firme d'éclairage public. Hein. De l'autre côté, un peu plus loin que le centre hippique, on a un autre magasin à poudre, encore parfaitement visible, qui a d'ailleurs servi pour le centre hippique tout au début, d'ailleurs. Et puis, quand on continue la vallée de Lima en direction des Roches de Lima, au-delà des Roches de Lima, on a encore un magasin à poudre visible qui est en grande partie en ruine et qui est un refuge à chauves-souris, à chiroptères. Alors, à côté de cela, on va construire d'autres bâtiments, puisque, évidemment, je parlais du ravitaillement. On va construire, à partir de la fin des années 1880, le chemin de fer militaire de la place, donc chemin de fer à voie de 60, dont j'ai parlé tout à l'heure à propos du fort d'Uxenier et du fort de Bois-l'Abbé. C'est 120 km de voie ferrée, avec un chemin de fer qui fait le tour de tous les forts, et puis avec des voies rayonnantes qui partent de l'arsenal de la Madeleine, où se trouve le hangar à locomotive, où se trouve aussi un château d'eau, qui a disparu il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, il a disparu quand on a démoli des anciens magasins militaires pour faire place à la société de cars qui gère les cars urbains à Épinal, hein, donc au bout des anciennes casernes Schneider de la Madeleine. Donc, construction, c'est considérable, hein, 120 km de voies ferrées. Il ne faut pas oublier que ce sont des voies ferrées en adhérence, c'est-à-dire que on monte vers la ligne des forts, par exemple vers le fort de la Mouche, en adhérence.
Il n'y a pas de créneau, il n'y a pas de...
Absolument, il n'y a pas de crémaillère.
Crémaillère, merci.
Il n'y a pas de crémaillère. Et donc, on monte derrière la 40 semaines, hein, progressivement, il y a toujours le pont de chemin de fer qui existe, visible, quand on va au parcours de santé, quand on va vers la Fontaine-Guerie. Hein. Il faut imaginer que quand on passe sous le pont, ben, il y avait des trains qui passaient au-dessus, hein, et qui montent vers le fort de la Mouche et le fort de Razimont. On a la même chose quand on est, par exemple, au Roches de Lima. Quand vous êtes au niveau de ce qu'on appelait Beau Désir, hein, le petit carrefour, au-delà du centre hippique, Vous avez en bas la route goudronnée qui continue le long de la vallée, au fond de la vallée. Et puis, à droite, quand on vient de Chantraine, on a un chemin forestier utilisé par les vététistes, les cavaliers, etc., qui arrive derrière les Roches de Lima, qui passe derrière les Roches de Lima par un tunnel. C'est un tunnel ferroviaire. On avait la voie ferrée qui montait là. Hein. Donc, progressivement, on part de zéro à ce carrefour de Beaudésir. Et quand on est aux Roches de Lima, bon, on est déjà au moins une vingtaine de mètres au-dessus du fond de la vallée, de la route que l'on voit parfaitement. Hein. Et on monte progressivement vers la route qui va sur Renauvoy. Hein. Voilà. C'est des travaux énormes parce que ce sont des ponts, ce sont des tunnels. Par exemple, on a un tunnel du Chia, qui est à côté du fort du Chia, entre Girancourt et le fort des Friches. C'est un tunnel qui fait la longueur d'un train. C'est-à-dire que le train militaire pouvait s'abriter à cet endroit-là. Alors, les trains, ce ne sont pas seulement des trains pour amener des munitions. Ce sont des trains aussi où on peut y avoir d'ailleurs des wagons pour transporter du personnel ou des officiers en cours d'inspection, éventuellement. Hein, on fait des photos là-dessus. Et puis, on a surtout des trains d'artillerie. On a 3 trains d'artillerie à Épinal à partir de 1890-95. On a 2 trains avec une batterie donc de 4 canons de 155 mm, donc les canons de campagne les plus puissants de l'époque. Hein. Et puis, un train qui tracte une batterie de 4 canons de 120 mm. Hein. Donc, ce sont des trains qui peuvent se balader tout autour de la place, qui peuvent s'arrêter à des endroits qui sont précisés dès le temps de paix, avec généralement des boucliers de terre pour que l'adversaire ne le voit pas. N'oublie pas qu'à l'époque, ces trains sont tractés par des locomotives Péchaud. Alors Péchaud, c'est un colonel du génie qui a inventé ces locomotives, à double chaudière. Donc ça fume. Donc l'adversaire peut voir la fumée. Donc on s'arrête très peu de temps sur ce qu'on appelle des épis de voie ferrée qui sont préparés à l'avance. Donc, il y a un aiguillage. On s'arrête sur cet épi. On met les 4 canons en position, en batterie. On tire et ensuite, on s'en va pour éviter le tir de contre-batterie. Hein. Donc, c'est très savant. Hein, et on a donc 3 trains de ce type-là qui peuvent tourner autour de la place. Hein. Voilà. Alors, plus évidemment, les ateliers de réparation, hein, bien entendu, qui sont aux casernes Schneider, puisque c'est une caserne du génie et de l'artillerie, qui est là. Donc, voilà.
Oui, donc on voit que finalement, assez rapidement, quand les forts vont être construits, des aménagements, des améliorations vont être apportées pour permettre, entre autres, grâce à cette voie de chemin de fer, j'imagine, d'améliorer le quotidien et le travail des hommes qui exercent sur ces forts. Eh bien, je vous propose, Jacques Grasser, qu'on puisse se retrouver dans une prochaine émission pour poursuivre autour de cette thématique. Et donc, je vous dis à très bientôt sur cette même fréquence. Et je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet.